Chapitre 18. La solitude de la petite maison fit plaisir à Rosette, qui, tout en désirant voir Candale, craignait de l'y rencontrer. Pour laisser un signe de sa venue, elle défit un superbe bracelet orné d'un camé représentant Terpe Sicore dansant, tandis que Terpe joue de la flûte, et le posa sur un oreiller du sofa, de façon à ce qu'il pût être vu et trouvé facilement. Mais elle se retira, après avoir regardé à sa montre l'heure qu'il était, comme quelqu'un qui ne peut plus attendre. « Je reviendrai, » dit-elle au laquais. « C'est bien, madame, » répondit-il en s'inclinant. En sortant de la petite maison, elle se vit conduire chez la Guimard, où le vicomte de Candale fréquentait, et qui aurait pu lui en donner des nouvelles, mais la célèbre danseuse n'avait pas vu Candale depuis le souper. M. de Valnoir l'avait vainement cherché pour une fête qu'il donnait, et où l'on devait jouer une parade en figurique de Collet, des plus libres et des plus divertissantes. Rosette rentra chez elle, fort mécontente et fort triste. Elle n'avait plus qu'une chose à faire, attendre que le vicomte, mû de quelque résipiscence galante, la vint trouver de lui-même, parti mélancolique et piteux qu'une amoureuse ne saurait admettre. Le lendemain, elle retourna à la petite maison du faubourg et retrouva son bracelet à l'endroit où elle l'avait mis, preuve de la sagesse de Candale. La chose devenait grave. Un vicomte de 25 ans, beau, riche et sage, oh, ce n'était pas naturel. Il devait y avoir quelque passion là-dessous. Le bonheur peut seul distraire du plaisir. Après avoir erré une demi-heure dans cette solitude voluptueuse dont il lui était si doux de profiter, Rosette se retira, à la grande surprise du grisot qui ne pouvait comprendre que son maître manquât de la sorte deux rendez-vous qui devaient être agréables. Il eut compris qu'il ne fût pas venu au second, mais qu'il eût oublié le premier. Cela blessait ses principes de valet Don Juan, qui avait eu l'honneur d'appartenir à M. de Richelieu et de travailler avec M. Lebel, le ministre des plaisirs de Sa Majesté. Aussi prit-il sur lui d'écrire à M. le vicomte ce qui se passait. Voici la missive du vénérable serviteur. « Monsieur le vicomte, j'ai toujours rempli avec beaucoup de zèle la place que monsieur a daigné me confier, et je crois m'en être montré digne. Sans vouloir en rien préjuger des intentions de monsieur, qui est bien le maître de faire ce qui lui plaît, je pense qu'il est de mon devoir de l'avertir qu'il est venu deux fois à sa petite maison, dont j'ai la garde et la direction, une fort belle dame en grand équipage, point masquée ni cachée, qui m'a paru être de l'opéra, semblait avoir un grand désir de voir monsieur. Il se peut qu'entre tant d'affaires que monsieur a sur les bras, comme de princesses, de duchesses, marquises, baronnes, présidentes et autres, il ait oublié celle-ci. Oh, je sais que ce ne sera pas pour monsieur un bien grand triomphe, vu qu'il a tout ce qu'il y a de plus huppé, mais outre que cette dame est très bien de sa personne, elle en tient véritablement pour monsieur et s'en va le cœur bien gros. Oh, nous qui voyons passer beaucoup d'amour, nous y connaissons, c'est du véritable, et j'en préviens monsieur, pour qu'il en fasse comme il lui conviendra. Roux, dit Hector, valet de cœur et grison de monsieur le vicomte. Cette lettre parvint à Candale, qui reconnut tout de suite Rosette à ce portrait, et se promit d'aller chez elle. Mais l'homme propose et l'amour dispose, et Candale, vêtu de l'habit de droguet de M. Jean, se trouva dans la petite chambre de l'ouvrière en dentelle, au lieu d'être dans le boudoir de la danseuse, comme il en avait le dessein. Contrarié du peu de succès de ses démarches, Rosette se sentit si triste qu'elle se crut malade. Elle dit qu'elle avait les nerfs et ses vapeurs et s'établit dans une chaise longue. Ses amis la vinrent visiter, entre autres la Guimard, qui au fond était une assez bonne diablesse. Elle vit tout de suite en femme d'expérience quel était le mal de Rosette, et au lieu d'y chercher une foule de noms barbares comme un membre des quatre facultés n'eût pas manqué de le faire, elle lui dit, oh, sans autre préambule, « Mais tu es amoureuse. »« Hélas, oui. »« Mais comment, hélas, n'est pas amoureuse qui veut. C'est un bonheur qui ne m'est arrivé qu'une fois. Et je donnerais bien les 1000 écus de pension par semaine que me donne le prince pour en être encore là. »« Mais être amoureuse pour n'être point aimée. » Mais qu'est-ce que cela fait? On aime, cela est si bon. Et d'ailleurs, faites de la façon dont tu es, tu ne dois pas trouver de cruel. Bien, je ne sais pas pourquoi ce mot masculin me fait rire. Il semble fait pour rimer avec belle dans les chansons et les madrigaux. Oh, comme tu ris! Ben, faut-il pleurer, celui qui t'a inspiré cette flamme? C'est donc un Hippolyte, un être farouche et maussade, qui ne se plaît qu'au bois et préfère au beau sexe les cerfs et les daims, comme celui de M. Racine. Oh non, il n'est pas sylvestre à ce point. Et peut-on savoir son nom, M. le Vicomte de Candale? Alors, la situation n'est pas désespérée, car il n'est pas barbare outre mesure, et l'autre soir, à mon souper, vous paraissiez du dernier mieux. Oui, je le croyais, assez tendre à mon endroit, mais depuis ce souper, je n'ai pas pu le revoir. Bon, il n'est pas cependant introuvable. On ne voit que lui à Versailles, au cours de la Reine, au Palais Royal, aux Tuileries, à l'Opéra, à la Comédie, au concert spirituel. Eh bien, depuis quelques jours, il a passé à l'état de chimère. Mais il est peut-être allé dans quelqu'une de ses terres, ou bien il suit le roi au voyage de Marly. Mais non point, je m'en suis informé auprès de la Fleur, son valet de pied. Il n'a point emmené ses équipages, et même il paraît de temps en temps chez lui, mais sans suite et fort irrégulièrement. Bien, voilà qui est singulier. Mais que peut-il faire? S'il avait eu l'affaire réglée avec quelques grandes dames, le mari ou l'amant supplanté nous l'aurait dit, car c'est chez nous qu'on vient chercher consolation de ses désastres. Mais c'est vrai. Et s'il avait donné dans les lacs de quelques beautés de théâtre, elle l'aurait déjà crié sur les toits. Quand on est de l'espalier ou des chœurs, ou même premier sujet, on ne cache pas un vicomte de Candale. Mais alors, où a-t-il logé son cœur? Oh, j'ai bien peur qu'il l'ait donné dans quelque amour bourgeois ou de robe au Marais ou à l'île Saint-Louis. Mais tu m'effraies, cher Guimard. Ben, sans cela, il ne serait pas naturel, ma pauvre Rosette, que toi, une des plus belles filles de l'opéra, tu soupirasses en vain. Je sens le vrai de ce que tu dis, mais comment se conduire en une telle occurrence? Bon, fais-toi faire la cour par deux autres amants, cela te distraira toujours un peu. Point. Bon, moi j'écouterai des conseils, à la condition qu'ils ne me diront pas de renoncer à mon amour. À la bonne heure, c'est d'être franche, et je vais te conseiller selon ton goût. Il faut absolument savoir ce que fait M. Candale. Tu es bien décidé, n'est-ce pas, car tu n'es pas de ces courages pusillanimes qui préfèrent l'incertitude à la vérité. Non, certes, mais comment savoir ce qu'il fait? Je l'ai essayé vainement. Belle manière de pénétrer le secret des gens que de l'aller demander à eux-mêmes. Mais comment s'y prendre? Monsieur de Sartine, qui est fort de mes amis, m'a rendu quelques petits services dans les choses de son ressort, cela le plus galamment du monde. Monsieur le lieutenant de police? Oui. Mais quel rapport y a-t-il entre la police et l'amour? Mais de très grands rapports. J'avais un amoureux que je soupçonnais de quelques frasques en dessous. Je n'y tenais pas autrement, mais je n'aime pas être prise pour une dupe. Et M. de Sartine, pour éclairer sa conduite, me prêta ses deux plus fines mouches, oh, des gens admirables pour la sape et l'intrigue, qui reviendraient à tous les scapins de comédie, des hommes de génie qui lisent les lettres que vous avez dans vos poches, reconnaissant les gens masqués, voient à travers les murs et vous racontent tous vos secrets. Et qu'en arriva-t-il? Eh bien, mes Sbrigani me démontrèrent en 24 heures que j'étais indignement trompé, et j'eus le plaisir de confondre le parjure avec des preuves de trahison si évidentes qu'il crut qu'il y avait de la diablerie là-dessous, ou tout au moins de la magie blanche. Mais c'est admirable! Je vais demander avec toi à M. de Sartine qu'il mette à ton service ces deux argus, ce qui t'accordera à coup sûr, à moins qu'il ne soit employé à des choses qui concernent le salut de l'État. Rosette donna dans cette idée avec la furie d'une personne amoureuse et jalouse qui voit un moyen d'éclairer ses doutes, et les deux danseuses s'en allèrent chez M. de Sartine, qu'elles trouvèrent dans un cabinet plein de perruques, en train d'en essayer une nouvelle. Ce magistrat les reçut de la manière la plus affable et la plus gracieuse, et se fit un plaisir d'attacher temporairement au service de Rosette les sieurs Clochebourg des Pincecrocs, qui en virtuoses émérites ne purent s'empêcher de sourire lorsque la danseuse leur dit ce qu'elle désirait savoir. Le lendemain, un petit rapport fort proprement écrit se trouvait sous l'oreiller de Rosette, placé là par une main inconnue. Il contenait ces mots: Monsieur le vicomte de Candale va tous les jours chez Monsieur Bonnard, son intendant, où il quitte ses habits de ville pour prendre ceux d'un jeune commis au gabelle, puis il se rend ainsi déguisé, rue de numéro au troisième étage, chez Mademoiselle Jeannette, ouvrière en dentelle, emménagée là depuis peu. Il lui reste 2 heures environ. Dimanche dernier, Monsieur le Vicomte et Mademoiselle Jeannette sont allés se promener à la campagne, ont dîné au cabaret du Lapin Blanc. Nous ne savons pas au juste ce qu'ils ont mangé, mais si Madame y tient, nous ferons nos efforts. Oh, grand Dieu! Soupira Rosette en lisant le fatal rapport. Une grisette est encore pire qu'une bourgeoise. Et se laissant aller en arrière, elle perdit connaissance. On ne put la faire revenir qu'avec l'eau de la reine de Hongrie et les gouttes du général Lamotte, souveraine dans ces occasions. Chapitre 19. Le caprice de Madame de Champrosay de se transformer en Jeannette devait troubler plus d'un cœur. Le sensible droguiste de la rue Sainte-Avoie avait reçu au bal du Moulin Rouge une flèche de Cupidon en pleine poitrine. L'on n'ignore pas que ce petit dieu tire sur les mortels avec des flèches de deux sortes. Les premières ont des pointes d'or, les secondes des pointes de plomb. Les unes inspirent l'amour, les autres l'antipathie, ou tout au moins la froideur. Le malheureux droguiste était si traversé par une des premières que le dard lui sortait par le dos, tant la corde avait été bien tendue et l'arc bien bandé. Une des secondes avait été dirigée sur Madame Champrosay, qui se souciait du droguiste non plus que s'il n'eût pas été du monde. Être l'héritier présomptif d'une belle droguerie rue Sainte-Avoie, à l'enseigne du Mortier d'argent, et mourir d'amour pour une grisette sans le sou, oh, c'est une position humiliante et triste. C'était celle du jeune Rougeron, l'Alcibiade, l'Amilcar, le Galaor du quartier, celui que les Denise, les Nicole et les Javotte regardaient tendrement en passant devant la boutique ou assis au comptoir proprement ciré. Il broyait quelques médicaments quelques épices, quelques aromates, ou se délaisser les soins de la journée à tourner très dextrement en cornet de papier les œuvres de messieurs tels ou tels, dont plusieurs étaient cependant des 40. Plus d'une belle fille de la rue Maubuée, de la rue du Plâtre, de la rue Geoffroy-Langevin et Barre du Bec rêvait d'être assise en robe de siamoise flambée dans ce comptoir triomphal. Car si la droguerie touche d'un côté à l'épicerie, de l'autre elle touche à l'apothicaire, ce qui la relève infiniment et lui donne de la majesté. Mais elle rêvait et soupirait en vain. Rougeron ne pensait qu'à Mademoiselle Jeannette, qui, vu les faits divers des flèches dont nous avons parlé tout à l'heure, n'avait pas pensé une minute à lui. Comment retrouva-t-il la jolie ouvrière en dentelle? C'est un point d'histoire qui n'est pas bien éclairci. Il est probable qu'il la rencontra par hasard et la suivit de loin jusqu'à son logis, ou peut-être le courtaud de boutique, le galant de Justine, qui était son ami, fit-il quelque indiscrétion? Ce que nous pouvons dire, sans plus nous arrêter sur ce détail fastidieux, c'est qu'un matin, Jeannette vit entrer chez elle le fils du droguiste, ayant l'air le plus piteux, le plus décontenancé et le plus sot du monde, tournant son chapeau entre ses doigts, saluant comme un enfant de cœur, aussi empêtré de sa personne, aussi embarrassé de ses bras et de ses jambes qu'un amoureux de village devant les grands-parents de son accordée. Ce triomphateur d'un si beau sang-froid et d'un si grand aplomb dans les bals de guinguette, faillit prendre un billet de parterre, comme le beau Léandre ou Jeannot dans les parades de la foire Saint-Laurent, lorsque Jeannette lui dit de s'asseoir. Tant il avait mal pris ses mesures, car l'amour qui donne de l'esprit aux filles rend les garçons bêtes, on ne sait pas pourquoi. Jeannette, le voyant tout rouge, tout pantelant, le front couvert de sueur, eut pitié de son embarras et ouvrit la conversation par une phrase banale. Mais quel hasard vous amène ici, mon cher monsieur? Bon, je passais par là, j'ai profité de l'occasion pour vous faire une petite visite, car je vous ai pas vu depuis ce fameux bal. Non, mais ce m'est bien de l'honneur, et vous m'y voyez, on ne peut plus sensible, reprit Jeannette d'un ton froid qui contrebalançait ce que ses paroles pouvaient avoir d'honnête et d'engageant. La conversation allait tomber de nouveau lorsque l'infortuné droguiste, faisant un violent effort sur lui-même, reprit ainsi avec beaucoup de feu et de véhémence. Non, non, mademoiselle Jeannette, non, je ne passais pas par là, comme je viens de le dire tout à l'heure. Je suis bienvenu, tout exprès, en prenant ma résolution à deux mains. Je souffrais trop de ne pas vous voir. C'est le bal du Moulin Rouge qui a tout fait. Vous étiez ce soir-là si jolie, si brave, si pimpante, que j'en ai eu le cœur pris tout de suite. Jusqu'à présent, j'avais eu des amourettes, mais maintenant c'est de l'amour tout bon. Je le sens à la peine que j'endure. J'en perds le manger, le boire et le dormir. Encore que je voudrais si bien dormir pour rêver de vous, ce serait toujours cela. Avant de vous connaître, je passais pour un garçon entendu dans ma partie et qui manquait pas d'esprit. Ensuite, mes colibets de la rue de la Verrerie à la rue des Vieilles Haudriettes. À présent, je ne mets pas le poids qu'il faut. Je pèse tout de travers, je fais des cornets qui se déroulent. Je donne de la vanille pour de la cannelle, et je me trompe sans cesse dans les sirops. Je ne sais plus distinguer un alcali d'un acide, et tout dernièrement j'ai raté une teinture de tournesol. À quoi j'excelle? Autrefois, j'avais toujours le petit mot pour rire, et disais aux pratiques et aux jeunes filles les choses les plus drôles du monde. Mais c'est plus ça. Je suis maladroit, tout stupide et tout chose. Ce qui prouve, mademoiselle, que je vous aime. Car enfin, c'est pas naturel, il faut que le petit Dieu malin s'en soit mêlé. Pendant cette étrange déclaration, Jeannette eut plus d'une fois envie de rire, mais L'infortuné droguiste avait tant de feu et de conviction, son sentiment était tellement sérieux sous son discours burlesque, qu'elle put n'éclater point et répondre assez doucement pour ne pas aggraver ce chagrin véritable, quoique ridicule. Monsieur Rougeron, tout cela est sans doute fâcheux, mais qui puis-je? Ben, celle qui a fait le mal le peut bien guérir. Ben, je voudrais bien vous rendre la raison, mais pas de la manière que vous entendez. Ben, comment? Ben, en vous exhortant à ne plus penser à moi, comme va le faire toute honnête fille en cette occasion. Mais vous m'aimez donc pas? Non, mais cela ne doit point vous blesser. On n'est point maîtresse de ses sentiments. Denise vous aime, et vous ne l'aimez pas. C'est vrai, mais il me semble que si vous accueilliez mes voeux un peu favorablement, vous finiriez par avoir de l'affection pour moi. Mais on finit pas par avoir de l'affection. C'est par là qu'il faut commencer. En amour peut-être, mais pour le mariage, c'est pas nécessaire. Il y a la force du sacrement, puis l'habitude, les bons soins, puis les enfants font le reste. Oui, Jeannette, tel est l'entraînement de ma passion pour vous, que je vous épouserai, s'il le faut, malgré la grande distance qui sépare un droguiste établi de simple ouvrière en dentelle. Mes parents m'en murmureront d'abord, criera à la mésalliance dans la rue Saint-Avoy, mais votre beauté triomphera de tout et fera comprendre ma résolution. Je mets, divine Jeannette, le mortier d'argent à vos pieds, avec son comptoir de chêne, ses balances luisantes, ses pots de porcelaine étiquetés, ses tablettes et ses casiers remplis de cochenilles, de safran, de mastic d'outre-mer, de sandragon, de bézoard, de gomme-andragon, de sandaragne, de simam, de benjoin et d'aromates de l'Inde, aussi précieux que l'or. Mais j'y ajoute les 3 000 livres de rente qui me viennent du chef de ma mère et ma maison de la rue Culture Sainte-Catherine, qui est d'un beau rapport et une pièce de vigne près d'Orléans, dont je fais un vin assez joli, sans compter les hardes, nippes et bijoux. Tout cela est très beau, répondit madame de Champrosay, peu émerveillée de cet inventaire persuasif qui eût dû éblouir Jeannette, et sur lequel le droguiste amoureux comptait, comme dans le mouvement d'éloquence le plus irrésistible. Mais je ne puis donner les mains à un mariage qui vous mettrait mal avec vos parents. Oh, si y a que cet obstacle, je saurais bien l'aplanir, répondit le droguiste, tout pâle d'émotion. Et auquel, continua Jeannette, malgré tous les avantages qu'il présente et l'honneur dont il me comblerait, je ne me sens nulle inclination. Alors, si vous me refusez de la sorte, mademoiselle Jeannette, c'est que vous en aimez un autre. Eh bien, quand cela serait, ne puis-je disposer de mon cœur à ma fantaisie? Et c'est monsieur Jean, l'heureux mortel, un petit provincial d'Auxerre, dont tout l'avenir est d'avoir 1 200 livres au gabelle. Joli parti. Très bon pour moi, qui n'ai rien. Mais de grâce, mon cher monsieur Rougeron, ne vous laissez pas aller à ce mauvais goût de draper un rival. » Sans ajouter un mot, le droguiste anéanti se retira blême de colère et de jalousie, méditant quelque vengeance contre Jeannette ou contre Jean, ou même contre tous les deux, car rien n'est plus amer dans son ressentiment qu'un droguiste aigri. Chapitre 20. Nous avons laissé Rosette évanouie en apprenant cette déplorable nouvelle que M. le vicomte de Candale était préoccupé d'une grisette. Quand elle fut revenue de cette pâmoison, elle eut d'autre idée que de voir cette Jeannette, assez belle pour couper les roses sous le pied à une déesse d'opéra, et débaucher au sentiment un jeune seigneur qui jusque-là s'était contenté du plaisir. Elle comprit, avec cet instinct de femme qui ne trompe jamais, que l'ouvrière en dentelle devait être un rare morceau pour séduire à ce point M. de Candale, qui était fort usagé et avait beaucoup de monde. Ce qui l'alarma principalement, c'est que Mlle Jeannette, quoique courtisée du vicomte, restait dans sa petite chambre, au lieu de transporter dans quelque petit hôtel meublé avec un luxe ruineux, comme c'est l'usage lorsqu'un seigneur distingue avec quelque suite une fille de peu. Il fallait que Jeannette fût d'une vertu à toute épreuve, ou que M. de Candale la respectât infiniment, pour ne pas s'être conduite avec elle de la sorte dont il l'aurait fait avec tout autre. Elle se disait bien que le vicomte s'était déguisé d'abord pour ne pas effaroucher la donzelle et pénétrer dans la place à l'abri de ce travestissement, mais elle s'étonnait qu'il le gardât. Et pour éclaircir ses doutes, elle fit venir une chaise, s'y plaça enveloppée d'une grande terrasse de couleur sombre et dit à ses porteurs de la conduire à la rue de... Jeannette, qui se croyait inconnue à l'univers et perdue comme un oiseau au fond des bois dans ce nid d'amour, fut on ne peut plus surprise lorsqu'elle vit entrer une belle femme, bien mise et l'air passablement dédaigneux, qui lui dit « Mademoiselle Jeannette ?»« Oui, c'est moi, madame. »« Vous travaillez en dentelle ?»« Oui, madame. » « Pourriez-vous me faire trois zones d'un dessin pareil à celui-ci ?»« Oh, ce sera long et difficile, mais on peut en venir à bout, » dit Madame de Champrosé, soutenant à tout hasard devant cet inconnu, dont elle ignorait les intentions, son personnage d'ouvrière. « Et ce sera cher aux trois louis, madame. » « Les voilà d'avance, » dit Rosette, qui voulait se donner le temps d'examiner sa rivale, et qui ne put, avec la meilleure volonté du monde, de la trouver affreuse, s'empêcher de convenir vis-à-vis d'elle-même que Jeannette était charmante. Elle admira en enrageant ses beaux yeux bleus, si tendres et si fiers, cette bouche rose, ce teint délicat, ces traits si purs, ce beau col si bien attaché, tous ces charmes modestes que faisait valoir un frais déshabillé. Et cette contemplation lui arracha un soupir. Certes, sa beauté valait celle de Jeannette, et pourtant, l'ouvrière en dentelle avait quelque chose d'indéfinissable, un charme particulier, une noblesse naturelle, un certain air aristocratique, si ce mot peut s'appliquer à une simple grisette. Mais d'où vient-elle donc qu'elle est plus belle que moi ? Se disait la danseuse vis-à-vis de l'ouvrière. Mes yeux valent les siens, mon teint est aussi éclatant et ma taille est mieux prise. Serait-ce, comme dit ce philosophe, imitateur de Jean-Jacques, je fais dîner à l'office, qu'à la beauté physique, elle joue à la beauté morale. Ben, j'étais venu pour lui chanter Pouille, et voilà que je me reste presque embarrassé devant elle. Ces réflexions rapides traversèrent la tête de Rosette, causèrent un silence de quelques secondes qui devenait gênant. La danseuse le rompit. « Ma chère petite, » fit-elle du ton le plus affectueux qu'elle put prendre, cette dentelle n'était qu'un prétexte. Je voulais vous voir et vous parler pour des choses d'importance qui vous regardent vous et moi, car, bien que je ne vous ai jamais vu, tout ce qui vous intéresse me touche fort. Mais ce que vous dites, madame, est une énigme où je ne comprends rien. Que peuvent avoir de commun deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées et qui ne se rencontreront probablement plus ? Mademoiselle Jeannette, « vous avez un amant ?» À cette interpellation si brusque, le noble sang de ses aïeux monta aux joues de Madame de Champrosé, qui, se rappelant qu'elle était Jeannette, se remit aussitôt et garda un silence hautain. « Un amant, c'est peut-être trop dire, un amoureux, comme cela se nomme dans votre caste. » Mais que j'aie un galant ou non, que vous importe, laissez-moi, madame. Vous me tenez dans je ne sais quel but des discours que je ne puis entendre. Mais cela m'importe beaucoup. J'aime le vicomte de Candale. Et moi, monsieur Jean, cela m'est bien égal. Ou pas si égal que vous croyez. Et pourquoi? Mais monsieur le vicomte de Candale et monsieur Jean ne sont qu'une seule personne. Oh, je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Vous voulez me tourmenter. En tout cas, je ne suis point jalouse. Vous n'êtes pas aimée. Sans cela, vous ne viendriez pas chercher le vicomte de Candale chez mademoiselle Jeannette. Hélas, vous avez bien raison, mademoiselle Jeannette. Il ne m'aime point. Et maintenant, je le comprends. Car vous êtes belle, très belle, oui, plus belle que moi. Mais l'amour que vous acceptiez de monsieur Jean, pouvez-vous l'accepter du vicomte de Candale, un jeune seigneur de maison illustre, bien placé à la cour, qui a pris ce déguisement pour vous séduire, comme Jupiter lorsqu'il se transformait pour se divertir avec de simples mortels? Il n'a d'autre idée que de vous suborner, d'abuser de votre innocence. Rien de sérieux ne peut exister entre vous. Vous êtes nés dans des sphères trop différentes pour que vos existences ne se séparent pas d'elles-mêmes. Mais que pouvez-vous être dans sa vie? Une heure de plaisir. Bientôt, il retournera au monde où il est fait pour briller, et vous resterez dans votre ombre, pleurant votre crédulité. Assurément, il vous donnera autant d'or que vous voudrez. Il vous fera des rentes. Mais ce n'est pas là ce que vous désirez de lui, puisque vous êtes sage et ne visez qu'au sentiment. Peut-être, chère petite, aviez-vous l'espoir de vous faire épouser par monsieur Jean. Mais c'est une chimère avec monsieur de Candale, qui sera duc et grand d'Espagne de première classe après la mort de son oncle. Qui sait, dit Jeannette en souriant le plus tranquillement du monde. Nous reparlerons de cela quand vous voudrez chercher votre dentelle. Mais c'est qu'elle le fera comme elle le dit, pensa Rosette atterrée en regagnant sa chaise. Ces grisettes, avec leur semblant de désintéressement et de vertu, mais sont mille fois plus rouées que les sujets du chant, et c'est pas peu dire. Oh, mon pauvre cœur de bonne fille, dans quelle galère es-tu embarqué en aimant Candale? Cette révélation étrange, si bizarrement faite, causa-t-elle peine ou plaisir à celle qui l'a reçue? Si Jeannette y perdit, madame de Champrosay y gagna. Elle se sut bon gré de la perspicacité de son choix. Elle aima son sang de ne s'être point trompée et fit compliment à son cœur de n'avoir pas aidé ce caprice plébéien né des conseils de l'ennui et des intrigues d'une femme de chambre. Elle eut une joie d'hermine en sentant sa blanche fourrure vierge de tache. Au fond, quoique très amoureuse de Jean, elle trouvait ce nom bien vulgaire et fut heureuse de le voir s'allonger de la vicomté de Candale. Alors, bien des élégances, bien des distinctions et des finesses qui lui semblaient étonnantes dans le faux commis aux gamelles s'expliquèrent d'elle-même. Elle se livra à son amour avec une sécurité plus complète, n'en redoutant pas les suites et pouvant faire une liaison éternelle de ce qui ne devait être qu'une fantaisie de passage. Ainsi Rosette, au lieu de nuire aux amours de Candale, les avait servis. Mais elle ne pouvait savoir que Jeannette était la marquise de Champrosay. Elle n'avait pas demandé au mouchard, qui, ange indiscret, lui avait laissé ignorer ce détail à la recommandation de monsieur de Sartine, toujours prudent, mystérieux et sage. Lorsque monsieur Jean vint rendre sa visite accoutumée à Jeannette, celle-ci le reçut de l'air le plus cérémonieux du monde, et avec toutes les marques du plus profond respect. Quelle belle révérence vous me faites aujourd'hui, mademoiselle Jeannette. Vous m'aviez habitué à une réception plus amicale et plus familière. Un baiser me plairait mieux que cette grande révérence. Ah, mais c'est que je ne croyais pas recevoir dans mon humble chambre un si grand et si puissant personnage. Mais quel personnage? Que voulez-vous dire? Où tendent ces simagrées? Dit Candal, assez inquiet de la tournure que prenait cette conversation. C'est vraiment beaucoup d'honneur pour la pauvre Jeannette. Par Dieu, trêve de raillerie. Jean et Jeannette peuvent se faire plaisir, mais non honneur. Leurs titres se valent. Non, mademoiselle Jeannette ne peut aller de pair avec le vicomte de Candal. Votre généalogie, monsieur Jean, permettez-moi de vous appeler encore une fois de ce nom sous lequel je vous ai tant aimé, remonte beaucoup plus haut que la mienne. Ce coup subit étourdit un peu Candal, mais il se remit bientôt et avec un air d'extrême noblesse, il dit « Mais, quelle que soit la manière dont vous ayez appris mon nom, je ne le renierai pas. Oui, je suis le vicomte de Candal. Je dois cela à mes aïeux de le dire quand on me le demande. Ah, monsieur de Candal, comme vous avez abusé de la simplicité d'une jeune fille, comme vous m'avez trompé. Trompé en quoi? Ai-je menti? Regardez, mes yeux ne sont-ils pas pleins de flamme et d'amour? Ce que monsieur Jean a dit, Candal le répète. Mais mademoiselle Jeannette, peut-elle l'écouter? Dédaigneuse, elle écoutait bien monsieur Jean. Allez-vous faire la fière parce que je ne suis qu'un vicomte? Tout le monde ne peut pas être roturier. J'ai pas eu la chance de naître sans particule et sans titre, mais faut me pardonner. Et comment se fait-il que le vicomte de Candal fût à la noce au Moulin Rouge? Bon Dieu, par caprice, désœuvrement, ennui de plaisir, fastidieux, amour de l'inconnu, vague espérance du cœur qui cherche ce qu'il rêve et que j'ai trouvé, grâce à votre investissement. Vous avez accueilli le commis aux gamelles et vous auriez repoussé le vicomte. Écoutez, Jeannette, continua-t-il d'un ton plus sérieux. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne. Fiez-vous à moi. Loin de cacher ma passion, je veux m'en glorifier. Je veux vous remettre à votre place. Je veux en chasser votre beauté dans l'or, vous faire une vie d'enchantement et de fête, vous rendre riche, éclatante, heureuse, à faire envie aux duchesses, vous donner sur des plats d'argent les clés de vermeil de tous mes châteaux. La maîtresse du roi, qui est presque reine de France, pâlira de jalousie en vous voyant passer, car elle se sentira tombée du trône de beauté qu'elle n'occupe que parce que vous daignez rester dans l'ombre. Ma vie, mon sang, mon or, tout est à vous. Je vous donne tout. Oui, tout. Excepté cet anneau que monsieur Jean aurait passé au doigt de Jeannette, et qui seul me permettrait d'accepter les trésors de M. de Candal. Adieu, vicomte, nous ne devons plus nous revoir. Baisez ma main pour la dernière fois. Ah, monsieur Jean, pourquoi êtes-vous venu danser au Moulin Rouge?
Chapitre 21. Il faudrait un crayon plus habile et plus exercé que le nôtre pour peindre au vrai la physionomie désappointée de l'abbé lorsqu'il se présenta à l'hôtel de Champs-Rosé à son heure ordinaire et qu'il lui fut dit par le Suisse que madame la marquise était allée passer 6 semaines à la terre de sa tante, la vieille baronne de Kerkaradec, en Bretagne. L'abbé, réjoui de l'idée de voir madame de Champs-Rosé, dont il aimait fort la société, était arrivé d'un air furtif et joyeux, sautillant sur la pointe de ses souliers à boucles d'or, son petit manteau galamment jeté sur le bras, sa jambe moulée dans un fin bas de soie noire, et comme on dit, in fiocchi. Il était encore plus rose et plus épanoui que de coutume. Son sourire, motivé par un contentement intérieur, faisait étinceler les 32 perles de sa denture. Il avait préparé 2 ou 3 plaisanteries à peu près neuves, et autant de madrigaux presque inédits, sur les faits desquels il comptait beaucoup. Jamais il ne s'était senti si en verve, et pour arriver plus tôt, il avait fait dire son bréviaire par son domestique. Pauvre abbé, aucun pressentiment fâcheux ne l'avait averti. À force de grâce et d'amabilité, il se flattait de supplanter ce jour-là le Sapajou, son élève et son rival dans le cœur de Madame de Champs-Rosay. Et Madame de Champs-Rosay était partie pour un pays sauvage, inabordable, affreux, pire que la Chersonèse taurique, et peuplé de topinambous, d'algonquins et de hurons. Quel coup! Son sourire, qu'il ne pouvait fermer tout à fait, se rétrécit de moitié, ce qui était pour lui la suprême expression de la tristesse. Il se retira, pas lent, la mine défaite et l'air atterré, laissant prendre au taffetas de son manteau des plis désespérés et se répétant machinalement. Quelle barbarie insoutenable et quelle irrégularité choquante de procéder, de s'en aller ainsi sans tambour ni trompette chez une tante sempiternelle et de nous planter là, nous, ses amis, ses commensaux, ses adorateurs et les animaux de sa ménagerie intime. Et à qui donc vais-je dire les petits vers impromptus que j'ai si laborieusement préparés pour elle ce matin? Faudra-t-il les laisser rancir jusqu'à son retour? Ah, sort cruel, destiné, impie, que t'as fait un pauvre abbé de cour pour le persécuter de la sorte? Après l'abbé, le financier Bafogne, en carrosse surdoré, chargé de peinture et d'armoiries voyantes, car Bafogne avait acheté récemment des laines de noblesse, encombré par derrière d'un monde de laquais, chargé par devant d'un cocher de la plus vaste corpulence. Ce financier descendit lourdement de la somptueuse machine, vêtu avec un faste inouï, habit, veste et culotte de brocart d'or, doublé de brocart d'argent, boutons de diamant, larges comme des tabatières. Il rayonnait comme un paon dans sa queue, car ayant formé depuis longtemps le projet de faire une déclaration en règle à Madame la Marquise de Champs-Rosay, ayant choisi ce jour-là précisément pour l'exécution de ce grand acte qui lui coûtait beaucoup, car Madame de Champs-Rosay lui imposait, il s'était mis sous les armes et fait aussi beau que possible, c'est-à-dire fort laid, les grâces ne s'achetant pas chez le fournisseur. Lorsqu'il apprit l'inconcevable départ qui dérangeait tous ses plans, il se mit dans une violente colère, de cramoisie devint violet, jura, maugréa, tempêta, frappa la terre de sa grande canne à pomme d'or, ciselée par Rothier, le graveur du roi, d'une force à la briser, quoique le jour en fût d'un prix inestimable, et dit au Suisse ce mot magnifique qui peignait au vif sa profonde croyance dans le pouvoir de l'argent. « Marot, dis-moi que ta maîtresse n'est pas partie et je te donne 100 pistoles. » Le Suisse, consciencieux, qui ne demandait pas mieux que de gagner la somme, eut le chagrin de répondre à Bafogne que sa maîtresse était véritablement partie depuis la veille pour le château de sa tante, la baronne de Kerkaradec, près de Penmark, dans la baie d'Audierne. Détail qui se crut obligé d'ajouter pour remercier le traitant de la profusion de son offre et que celui-ci récompensa par une poignée d'écus de 6 livres. Au traitant succédèrent le commandeur de livry et le chevalier, dans un phaéton attelé de grands chevaux anglais, l'importation mise à la mode par M. de Lauragais, qui revenait de Londres, où il était allé apprendre à penser. Le commandeur fut sensiblement navré de l'absence de Madame de Champrosay, dont le cuisinier avait un style qui cadrait avec ses opinions sur la science de bien manger. Personne ne réussissait mieux à son gré le potage à la base pisque et les quenelles à l'essence. Mais c'était un homme incomparable pour les salmis de bécasse. Aussi le commandeur était-il de la fidélité la plus exemplaire au souper de la marquise. On pouvait difficilement le détourner à manger ailleurs. Et après ses propres vins qu'il soignait avec la sollicitude la plus minutieuse, il n'en était comme digne d'être bu par un gosier intelligent que ceux de la marquise, dont le sommelier avait pour lui la vénération la plus profonde à cause de ses grandes connaissances dans la matière. Le chevalier, qui, trompé par les peintures que Justine lui faisait de ses progrès dans le cœur de sa maîtresse, croyait entendre sonner bientôt pour lui l'heure du berger, ne vit pas, sans un dépit extrême, ses espérances reculées indéfiniment. Il s'imaginait, grâce à son esprit de ruelle et à sa jambe qu'il avait fort belle et dont il tirait vanité, avoir fait quelque impression sur l'aimable marquise. Que de bons mots et de dandinements il lui faudrait pour rattraper le temps perdu, pensa-t-il avec une sorte de rage. Mais ce dépit outré ne remédiait à rien. Les quatre habitués de l'hôtel Champrosay se dispersèrent donc, cherchant à passer leur soirée du mieux possible. L'abbé alla chez la présidente de T, mais il trouva son carlin si mal élevé et son singe si maussade qu'il s'amusa médiocrement. La présidente se couposait d'ailleurs outrageusement. Et pour comble de malheur, jamais un carnat ne fut plus mal distribué que le sien. Les roses de la pudeur avaient abandonné ses joues pour se réfugier sur son nez, où, malgré l'eau de chicorée et de concombre dont on les arrosait, elles se changeaient en coquelicots du ponceau le plus vif. L'abbé, comparant ce nez indomptable dans ses ardeurs au petit nez frais et blanc de Madame de Champrosay, sentit plus amèrement toute l'étendue de son infortune. Il essaya vainement de placer les vers et les mots qu'il avait faits le matin. Les circonstances n'y prêtaient pas, et au lieu de compliments, il susparut des injures sanglantes. Accablé par tant de revers, il fut terne, et le président de T dit à la baronne de B: Oh, décidément, il baisse, ce cher abbé. Encore si le souper avait été bon. Mais les vins étaient frelatés, les laquais ne versaient à boire qu'en rechignant. Les assiettes disparaissaient aussitôt qu'on tournait la tête, escamotés par des serviteurs pressé de s'aller coucher et d'emporter la desserte. Malgré le luxe de la vaisselle plate, l'éclat des cristaux et des bougies, c'était une vraie chair de cabaret, comme dans la plupart de ces maisons où l'ostentation se mêle à l'avarice. Le malheureux abbé prit congé, indigéré à la fois et mourant de faim, et se retira chez lui avec des idées d'aller finir à la trappe. Ben là, il ne fut pas beaucoup plus heureux. Ne sachant que faire de son temps, il se rendit chez la Désaubrie, qui l'aidait à peindre en patience les rigueurs des grandes dames. Mais comme l'impure avait compté que son bon d'or passerait sa soirée ailleurs, elle avait pris ses mesures pour charmer la solitude où il la laissait. Le traitant, qui entra inopinément avec l'autorité d'un homme qui paye, vit une petite table à deux couverts délicatement servie, et un bout d'épée et une basque d'uniforme qui disparaissaient par une porte refermée aussitôt. En vain, la désobrie chercha-t-elle à lui expliquer que rien n'était plus naturel que d'avoir deux couverts quand on est seul. Le traiteur ne voulut point mordre à cette explication si plausible, car il avait vu, de ses yeux vus, un pan d'habit disparaître dans le cabinet qu'il voulut ouvrir à toute force. Il en sortit un mousquetaire rouge de la plus belle venue, qui n'avait pas l'air le moins du monde déconcerté, et qui expliqua à Bafogne qu'il était le cousin de Mademoiselle des Aubries, personne fort respectable, et qu'il entendait qu'on traitât avec les plus grands égards. Sinon, il jurait son grand sacre bleu qu'il couperait les deux oreilles au faquin qui lui manquerait. Le financier, qui ne brillait pas précisément par l'héroïsme, et tenait à conserver ses oreilles, quoiqu'elles fussent longues, lança à la désobrie un regard de travers, comme celui des boucs dont parle Virgile. Mais il ne sonna mot et se retira en fermant les portes avec fracas, laissant le champ libre aux mousquetaires et à la donzelle, qui riaient impertinemment aux éclats. Telle fut la soirée du traiteur Bafogne. Le commandeur de livry, pour se consoler, dévora presque entière une hure de sanglier aux pistaches, qui le faillit étouffer, bien qu'il eût arrosé de nombreux rouges bords, et qu'il possédât un estomac d'autruche célèbre pour sa capacité digestive. La nuit, il eut un cauchemar affreux. Le sanglier dont il avait mangé la hure, sinistrement décapité, piétinait sur sa poitrine et tâchait de l'écraser en se roulant sur lui. Ce songe alarma beaucoup le commandeur, qui consulta Tronchin. Le célèbre docteur répondit en souriant: « Oh, ce rêve signifie que le sanglier est lourd et que vous aurez une indigestion si vous en mangez encore. » Quant au chevalier, il était de si mauvaise humeur, si aigre, si cassant, qu'il se fit, dans les coulisses de l'opéra, une querelle avec Versac. L'on prit l'heure pour se battre et le chevalier reçut à la joue une estafilade qui le faillit éborgner et le força de porter pendant quelques jours une grande mouche de taffetas d'Angleterre qui le défigurait si plaisamment qu'elle faillit lui faire avoir un autre duel. Voilà les fâcheuses extrémités où Madame de Champrosay contraignit ses quatre visiteurs habituels en feignant d'aller passer 6 semaines chez sa tante, la baronne douairière de Carcaradec, tandis qu'elle filait le parfait amour avec Monsieur Jean dans sa petite chambre d'ouvrière en dentelle. Mais ce que Madame de Champrosay n'avait pas prévu, c'est le parti suprême que prirent tous ses dévouements aux abois. Au bout de quelques jours d'essais infructueux pour se caser aussi agréablement ailleurs, l'abbé, le financier, le chevalier et le commandeur conçurent séparément une idée dont chacun crut avoir la primeur et qu'ils mirent à exécution le plus sournoisement possible. Cette idée amena la complication que nous allons raconter.